L'épopée millénaire. Le podcast des amoureux de Caen.
Notre dernier épisode de l'épopée millénaire évoquait les querelles incessantes entre les Caennais et les Anglais. Ce nouvel épisode consacré au 5e siècle d'existence de la ville de Caen en découle directement. En 1432, l'université est fondée, ce qui fait d'elle l'une des plus vieilles de France. Ce qui ne se voit pas forcément aujourd'hui, nous y reviendrons, mais elle est fondée par les Anglais. Il s'agit de la 3e université anglaise après celle d'Oxford et de Cambridge. Dominique Toulorge était directrice adjointe de l'UFR d'Histoire et a coécrit en 2012 un ouvrage sur l'histoire de l'établissement.
Cette université est fondée en pleine guerre de Cent Ans, alors que les Anglais occupent la Normandie, et plus que la Normandie d'ailleurs. Ils décident donc, le jeune roi Henri VI, ou plutôt le duc de Bedford, qui est son oncle et qui a en charge les affaires du continent, décide de fonder une université en Normandie d'abord, en Normandie. On est à une époque où, en fait, beaucoup du 14e, 15e siècle, beaucoup d'universités sont fondées par des princes ou des rois, et essentiellement pour former ce qu'on appelle des légistes, c'est-à-dire des juristes capables de, comment dire, assurer le fonctionnement de cours qui deviennent de plus en plus paperassières, en quelque sorte.
L'université est fondée en Normandie, mais pas n'importe où, à Caen, dans le quartier Saint-Sauveur. Pourquoi ici et pas ailleurs?
Alors, pour plusieurs raisons. Donc, Rouen, naturellement, nous en veut toujours, je suppose, de ce choix de Caen. Mais Rouen a déjà beaucoup de choses. Elle est le siège de l'administration anglaise, finalement, sur le continent. C'est là où le duc de Bedford, donc, a sa résidence. L'échiquier, qui devient le Parlement, y est installé. Caen a plusieurs avantages. D'abord, il n'y a pas d'évêque à Caen, puisque c'est à Coutances qu'il y a l'évêché. Et les relations, bien que les universités soient choses d'église, les relations ont toujours été un peu conflictuelles entre les évêques et les autorités universitaires. Donc il y a ça. La deuxième raison, c'est que Caen est éloigné des zones de conflit, finalement, dont Rouen est finalement plus proche. C'est une sorte de garantie. Alors, on a retrouvé la charte de fondation de Caen, où le roi Henri VI exprime des raisons pour lesquelles il aurait fondé à Caen. Mais en réalité, ce sont des raisons très stéréotypées qu'on retrouve dans toutes les chartes, dans beaucoup de chartes de fondation, et notamment que Caen est une belle ville avec beaucoup de très beaux monuments, religieuses, etc. Qu'elle est proche de la mer, ce qui favorise les échanges, et notamment les échanges d'étudiants. Alors, j'ai l'habitude de dire que c'est Erasmus avant la lettre, mais c'est un peu ça.
Les premiers recteurs de l'université sont donc anglais, avant que tout ne change en 1451.
Le roi de France, finalement, va battre les Anglais et l'université va être fondée une seconde fois, puisque le roi de France ne veut pas avoir l'air de reprendre une université anglaise, donc on refonde l'université. C'est-à-dire qu'on redemande au pape, puisque les universités sont choses d'église, et qu'il faut ce qu'on appelle une bulle pontificale, c'est-à-dire un acte législatif officiel.
La réputation de l'université est bonne, mais reste locale. Les jeunes Rouennais, eux, préfèrent aller étudier à Paris, voire Orléans. Cependant, Caen parvient à attirer des étrangers.
On voit des étudiants étrangers, notamment des Pays-Bas, venir étudier la médecine à Caen au XVIe siècle. Est-ce la réputation des enseignants qui les pousse à venir, ou bien le fait que Caen est à ce moment-là, une réputation au moment des crises religieuses, de ville relativement paisible, j'allais dire, par rapport à d'autres, qui fait que des étudiants protestants viennent étudier à Caen.
L'université de Caen qui a finalement copié son sceau sur celui de Paris. D'autres anecdotes de l'époque avec Dominique Toulorge.
Les enseignants ont toujours protesté contre la faiblesse de leur rémunération. On a, au XVIe siècle, des manifestations d'enseignants devant l'hôtel de ville, puisque les enseignants sont payés en partie par les échevins, par la municipalité, mais aussi par les étudiants eux-mêmes, hein, bien sûr. Ces enseignants protestent contre la faiblesse de leur rémunération. Alors, il faut dire qu'ils n'ont pas été payés depuis 3 ans, donc effectivement, ils ont de quoi râler. Autre chose aussi peut-être à dire à propos des diplômes, mais là aussi, ça n'est pas spécifique à Caen. Les diplômes universitaires, il faut bien le dire, sauf le baccalauréat, qui est un diplôme universitaire, pas grand valeur. Ce sont souvent des occasions plutôt de manifestations un peu somptueuses, et notamment le doctorat, où au cours de ces cérémonies de remise de diplômes de docteur, c'est moins le contenu de la thèse, finalement, qui importe que le menu qu'on va offrir au jury. Et on voit des jurys protester contre la mauvaise qualité du menu qui est proposé par celui qui va soutenir sa thèse, à tel point que le Parlement doit taper un peu du poing sur la table et dire non, il ne faut quand même pas exagérer. Voilà.
Et puis vient la Révolution à la fin du XVIIIe siècle.
Elle va être très tôt fermée, plus rapidement que les autres universités, hein, en 1791, parce que les universitaires canets, majoritairement, ont refusé de prêter serment à la Constitution. Donc elle est fermée. De toute façon, il y a assez peu d'étudiants à ce moment-là. Et il y a eu, il faudrait le dire, hein, finalement, peu d'étudiants malgré tout. Quand on regarde les chiffres actuels, évidemment, il n'y a absolument aucune comparaison. Pour donner une simple idée, hein, jusqu'à la Révolution, je crois qu'il n'y a jamais eu plus de 35 étudiants en médecine.
Caen, l'épopée millénaire. Le podcast qui traverse les siècles.
L'université redevient un lieu d'enseignement au début du 19e siècle. De nombreux jeunes viennent s'y former pendant le siècle suivant jusqu'au 7 juillet 1944. La bataille fait rage en Normandie et l'opération Charnwood est lancée. Louise Daguet est responsable du département des ressources documentaires à l'université.
Le 7 juillet 1944, des bombes tombent sur le bâtiment. Et de l'université, il ne reste que des cendres et de la bibliothèque, il ne reste que des gravats.
Que des gravats et quelques livres que certains étudiants ont oublié de rendre à temps. Une bombe incendiaire a détruit totalement l'université. Des copies du bac, puisque nous sommes en juillet, sont retrouvées jusqu'à Louvigny. Une bombe larguée par les alliés involontairement. Et d'ailleurs, le quartier Saint-Sauveur autour sera plus ou moins épargné. Mais Caen est libéré, il faut offrir à la jeunesse un nouvel endroit où étudier.
Oui, la décision de reconstruire une université à Caen se prend très rapidement. Une hésitation, mais qui ne dure pas très longtemps. Et en fait, dès septembre 44, les cours reprennent dans les locaux provisoires de la rue Caponnière. Aujourd'hui, c'est le rectorat de Caen. Après, la question, ça va être celle du choix du lieu. Et ensuite, du choix du programme artistique et du programme architectural.
Le lieu, justement, l'université que nous connaissons aujourd'hui aurait pu être construite à un autre endroit.
Plusieurs hypothèses sont proposées. Très rapidement, on évoque la possibilité d'implanter l'université dans le château, puis dans l'abbaye aux hommes, au bord de la prairie, ou bien du côté de l'abbaye aux dames. Finalement, c'est au moment d'une sorte de voyage d'études que les reconstructeurs passent devant le terrain du Moulin au Roi, qui est un terrain quasiment lunaire, hein, qui est constellé de gravats, de creux, etc. Et donc c'est ce terrain-là qui est choisi parce que c'est un terrain qui est vaste, hein, c'est 32 hectares, et qui va permettre d'implanter une université paysagère, donc ça c'est tout à fait moderne, et avec des grandes possibilités d'extension.
Un vaste lieu donc, et une université qui se voudra moderne.
Au moment de sa reconstruction et de son inauguration en 57, c'est l'université la plus moderne d'Europe, et ce n'est pas seulement une phrase publicitaire, hein, c'est vraiment ce qui est repris dans les discours canais, mais aussi nationaux et internationaux. La première chose, c'est est-ce qu'on construit une université à la mode médiévale, donc avec un bâtiment par grande discipline, ou est-ce qu'on construit un bâtiment, un palais universitaire? Et donc c'est bien ce choix-là qui a été fait. Hein. Et l'architecte de cette université, ça sera Henri Bernard, qui est Grand Prix de Rome, qui a une triple injonction. Il doit construire une université régionale, une université internationale et une université classique.
Henri Bernard est choisi aussi car il connaît Robert Mazet, premier recteur de la Reconstruction. Les deux se sont rencontrés quand ils étaient incarcérés dans un camp de prisonniers en Allemagne nazie. Henri Bernard qui plus tard construira le CHU de Caen ou l'église Saint-Julien.
C'est une université classique puisque Henri Bernard utilise l'alternance poteau-poutre qui est un grand classique de la Reconstruction aussi comme référence à l'architecture classique. La grande galerie vitrée qui a les dimensions de la galerie des glaces de Versailles rassemble la faculté de droit, lettres et sciences humaines avec la faculté de sciences. L'ensemble forme un U qui rappelle les patios médiévaux avec un jardin de simples à son centre. Et sous la galerie vitrée, effectivement, les piliers sont gravés par Charles-Émile Pinson avec des personnages qui ont tous un lien plus ou moins proche avec la Normandie, qui sont choisis par Michel de Boire, le grand archéologue médiéval qui organise les fouilles du château de Caen.
Et des portraits pas toujours très connus de ceux qui passent par le campus 1.
Parce qu'en fait, Charles-Émile Pinson, au départ, il est graveur. Donc c'est un homme d'encre et de papier. Quand il grave la pierre de Caen, alors c'est du béton avec de la pierre de Caen mélangée, mais c'est une pierre très douce. Et il imagine que l'eau va permettre à la mousse de s'implanter dans les stries. Sauf que si vous passez sous la galerie vitrée, il y a beaucoup de vent. Et donc la mousse ne s'est jamais implantée. Donc effectivement, la mousse qui devait faire ressortir vraiment les figures n'est pas là. Donc on les devine, mais je suis effectivement, peut-être que tous les étudiants ne les voient pas.
Le chantier est finalement assez rapide. La première pierre est posée en 48, l'université inaugurée en 57. Environ 4000 étudiants sont présents pour cette grande rentrée. Ça y est, l'université renaît de ses cendres et une certaine œuvre le symbolise bien.
Elle est posée en 58, mais évidemment c'est le phénix de Louis Legge qui marque l'entrée du campus donc depuis 1958. C'est une œuvre de commande et on demande à Louis Legge de réaliser une statue d'un phénix. Alors évidemment, ce n'est pas un hasard. Le phénix, c'est l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres tous les 500 ans. Donc l'université a été fondée en 1432. Elle renaît en 1957. C'est presque 500 ans. Et c'est aussi un symbole humaniste. Cette statue-là porte aussi l'espoir et le programme que se donne l'université, que la paix arrivera par la connaissance et par la science.
Aujourd'hui, l'université a bien grandi, elle accueille jusqu'à 33 000 étudiants par an dans de nombreux campus, ailleurs à Caen, mais aussi à Cherbourg, Alençon ou Saint-Lô. La qualité de l'enseignement qui fait de Caen une ville régulièrement bien classée au petit jeu des meilleures villes étudiantes. Qu'en pensent les pensionnaires de l'université en 2025?
Je suis arrivée cette année à Caen. Ce que je retiens, c'est que l'université, elle est vraiment sympa. Les infrastructures sont bien, les BU aussi. C'est super sympa, c'est vert et très calme. Moi, je trouve que Caen, c'est vraiment une super ville étudiante de manière générale, mais aussi parce que plus spécifiquement, on a des super BU avec beaucoup de livres qu'on peut emprunter et tout. C'est un campus qui est hyper ouvert sur l'extérieur, très vert. C'est aussi dans une université où il y a pas mal d'engagements de société, l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Et puis, c'est vraiment à l'image de la ville, en fait. Enfin, il y a le carnaval, par exemple, qui est un super moment annuel pour tout le monde. Et c'est vraiment très sympa d'étudier à Caen.
Moi, j'ai vraiment bien aimé étudier à Caen. Déjà parce que c'est vraiment une ville étudiante. On a l'impression que la ville est vraiment construite pour les étudiants. Il y a plein d'infrastructures qui sont mises en place. Moi, par exemple, j'ai fait du sport au SUAPS. Il y a vraiment plein de sports, on peut rencontrer vraiment plein de monde. Puis il y a des cafés de partout, dans plein de campus différents. Et je trouve que la ville, elle est vraiment aménagée pour les étudiants, en règle générale.
À noter que jusqu'au 24 août, une exposition est à visiter tous les jours entre 14h et 18h au campus 1. Elle revient sur la reconstruction de l'université. On y retrouve des esquisses, des croquis originaux ou du mobilier d'époque. C'est gratuit. C'est la fin de cet épisode consacré à l'université. Le mois prochain, nous parlerons d'un homme de lettres qui a laissé une trace profonde dans sa ville. Que ce soit au stade Michel Dornano ou dans un lycée, François de Malherbe a traversé les époques.
Mythes, histoires et légendes. Caen, l'épopée millénaire. Un podcast by Tendance Ouest.